Écoutez le monde changer.
Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, je vous emmène pour un grand voyage, sans barrières, sans frontières, sans passeport, sans test pour passer la douane. Chaque jour, deux destinations, une en France, une au bout du monde, juste pour rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et tout à l'heure, à 17h, je vous emmènerai sur une île pas comme les autres, un morceau de terre bien plus petit que la France, mais avec deux fois plus d'habitants, où 80% de la population vit dans des villes gigantesques. C'est un voyage vers un mode de vie totalement différent, une culture différente, une façon de penser différente. Nous irons au Japon. Voilà, on y est tout de suite. Ah, j'aime bien. Et puis juste avant, nous irons dans une région que j'aime beaucoup aussi et qui, pourtant, a une image un peu froide, un peu dure, alors qu'il y a là aussi une énergie très particulière à capter. Le pays des forêts profondes, des falaises abruptes, des méandres de la Meuse. C'est le pays de Rimbaud, de la place Ducale, qui est magnifique à Charleville-Mézières, inspiré par la place des Vosges. Nous irons dans les Ardennes. Et pour voyager, il faut partir bien accompagné. Je vous propose les meilleurs. Nathalie est là, l'auteure, grande voyageuse. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Emmanuel Jarry, notre spécialiste gastronome du monde entier.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Emmanuel. Et Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet. Bonjour Jean-Bernard.
Fidèle au poste, Philippe.
Toujours fidèle. Les Ardennes. En haut à droite, près de la frontière belge ou luxembourgeoise.
En fait, les deux. Alors ça touche, c'est frontalier avec la Belgique, mais c'est tout près du Luxembourg aussi. Ouais. Et c'est au nord de la Champagne. Voilà. Il y a la principale ville, Charleville-Mézières. C'est vrai que c'est pas la ville la plus connue de France. On en parlera tout à l'heure.
Non, mais elle a une place centrale magnifique.
Place centrale qui est magnifique. Et surtout, le principal attrait, vous l'avez dit tout à l'heure, principal attrait de ce département, c'est le côté très vert, le côté verdoyant, et une très belle vallée qui est la vallée de la Meuse.
Absolument.
Qui se prolonge en Belgique d'ailleurs.
Tout à fait. Et on dit la Meuse, souvent ça n'inspire pas quand on dit la Meuse, alors que c'est très beau.
C'est superbe, vous
c'est super.
Dire.
Meuse égale beau. Mais ça, on a du mal à connecter ces deux mots. Non, pas comme ça. Nathalie est là.
Oui.
Il y a des célébrités, des gens connus qui viennent des Ardennes.
Oui, enfin, une fois n'est pas coutume, parce que moi, je n'en ai retenu qu'un seul, parce qu'il pourrait presque incarner l'esprit de cette émission. Il s'agit d'Arthur Rimbaud, né à Charleville-Mézières en 1854, mort à l'âge de 37 ans. Et on peut dire vraiment que c'était un génie précoce, parce qu'il a commencé à écrire à 15 ans. Ouais. Et parmi tous ses écrits, il y en a un en particulier qui a marqué la conscience de plusieurs générations. Il s'agit du poème « Le dormeur du Val », qui est à la fois un hymne à la nature et en même temps un engagement contre l'absurdité, la barbarie de la guerre, avec ce jeune soldat fauché par un fusil qui semble dormir, étendu dans l'herbe auprès d'une rivière. Souvenez-vous, il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Alors Rimbaud, il a été surnommé l'homme aux semelles de vent, le voyageur qui de Charleville à Paris, puis de Aden au Yémen à Harar en Éthiopie, a toujours voulu aller plus loin. C'est l'homme du refus et du rêve, toujours sur le départ. On l'adore ici.
On l'adore. Et puis c'était aussi un marchand, hein. On le dit peu. C'était pas
commerçant.
Qu'un poète, c'était un commerçant, un marchand, un voyageur. C'était un gars qui avait de l'énergie. Emmanuel Jarry, vous êtes spécialisé dans le voyage et la gastronomie. Vous avez créé l'émission C'est meilleur quand c'est bon sur Internet. Alors, une gourmande comme vous, votre premier réflexe quand on dit Ardennes ?
Au risque de vous surprendre, je ne pense pas à la gourmandise. Enfin, bien qu'on y mange très bien, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la notion de frontière. Parce que j'adore les régions frontalières. Je trouve qu'il y a toujours des choses à imaginer au-delà de la frontière. Et même en cuisine, c'est toujours intéressant. Donc voilà, c'est l'ailleurs pour moi, les Ardennes.
Ah oui, c'est tout.
Voilà.
Bon, très bien.
Moi, je pensais plutôt au gibier, au sang.
Oui, ah bah, bien sûr, mais ça, je vous en parlerai. Mais vous m'avez dit le premier réflexe. Moi, je pense que de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe ?
D'accord. Donc l'herbe est plus verte ailleurs. C'est votre philosophie. Tout à l'heure, à 17h, je vous emmènerai au Japon, le pays du soleil levant, comme chacun sait, mais bien plus riche que ça. Et dans un instant, nous partons donc dans les paysages verdoyants des Ardennes. Avec nous, un humoriste que vous connaissez, qui est né à Charleville-Mézières, un Ardennais de cœur et de sang qui n'a jamais oublié d'où il venait, c'est Jérémy Ferrari. A tout de suite sur Europe 1. Deux heures de voyage tous les après-midi sur Europe 1, juste pour le plaisir de s'évader, de rêver. Après 17h, nous partirons au pays des cerisiers en fleurs. Ça, c'est magnifique. Alors, s'il y a un moment où il faut aller au Japon, c'est au moment des cerisiers en fleurs. On découvrira le mont Fuji, les temples par milliers de Kyoto. Donc, tout à l'heure, ça, c'est après le flash de 17h. Mais là, tout de suite, nous sommes dans les Ardennes, où il y a des choses très étonnantes, comme il y a une petite ville dans les Ardennes que j'aime bien, qui s'appelle Rocroi.
Magnifique, Rocroi.
Ouais, il y a un fromage.
Qui est une ville en forme d'étoile. Ouais. Et qui a conservé dans son état d'origine ses fortifications. Donc les rues sont en forme d'étoile, ça part d'une place centrale et ça permettait aux soldats de la garnison d'accéder le plus rapidement possible à leur poste. C'est une ville vraiment chouette. Les Ardennes, c'est sous-estimé. Franchement, j'aime beaucoup cette région. Et notre guide cet après-midi est un homme qui n'a jamais oublié ses racines ardennaises et qui revient chaque fois qu'il fait une tournée. C'est sa région natale, Jérémy Ferrari. Célèbre pour son humour noir sur des sujets graves. On se souvient de votre spectacle « Vend deux pièces à Beyrouth » sur la guerre et le terrorisme. Bonjour Jérémy Ferrari.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ben, ça va très bien.
Bon, votre famille est originaire, votre famille est originaire des Ardennes, du côté de votre papa, je crois. Mm-hmm. Ce sont des Ardennais de...
Oui.
Oui.
Oui, du côté de mon père, ce sont des Ardennais vraiment de pure souche. Il y a un petit décalage, je crois, quand on parle.
C'est ça, mais on va s'y faire tout doucement. Il y a toujours une petite minute comme ça de flottement. Donc, vous êtes né, vous avez grandi là-bas dans le quartier qui s'appelle, je crois, Manchester, à Charleville-Mézières.
On ne le prononce pas avec cet accent, avec cet accent anglais.
On le dit comment?
Mais oui, c'est ça. Ah, on dit Manchester.
Ah, c'est à Manchester. C'est quel genre de
Manchester.
Quartier?
Manchester. C'est un quartier populaire. Ça fait partie des 3-4 quartiers populaires qui entourent Charleville-Mézières.
Ouais. Et alors, cette ville de Charleville-Mézières, elle est magnifique. Elle est vraiment sous-estimée. C'est une ville un peu médiévale, avec plein de rues piétonnes. Et la place centrale est grandiose.
Oui, la ville est vraiment magnifique. Il y a énormément de rues piétonnes. La place du Cal, effectivement, ressemble énormément à la place des Vosges, parce que je crois que c'est deux frères qui ont fait l'une et l'autre. Donc on sent l'inspiration un peu familiale. Donc pour ceux qui connaissent la place des Vosges, la place du Cal est très très ressemblante. Il y a des arcades qui sont absolument magnifiques et tout le centre-ville de Charleville-Mézières est vraiment vraiment très 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 beau.
Jean-Bernard.
C'est tout des rues pavées, c'est vraiment magnifique.
Justement, Jérémy, comment on peut expliquer que Charleville soit à ce point sous-estimé? Parce qu'effectivement, il y a ce riche patrimoine architectural, c'est quand même très étrange.
Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a le côté un peu de l'Est qui fait que le climat est pas toujours extrêmement chaleureux. Donc c'est un endroit. Après, moi j'aime ces climats parce que c'est des endroits où il fait très très froid en hiver. On a des hivers à -10, -15 sur les gros hivers. Donc nous on est habitués. Et moi j'aime plutôt ça. Mais c'est vrai que c'est pas l'endroit forcément où on a envie de partir en vacances. À tort d'ailleurs, parce que c'est magnifique la vallée, la Meuse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, etc. Enfin, les paysages sont vraiment 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 magnifique. Et puis parce que c'est une, faut être quand même vraiment honnête, c'est une ville qui a été très touchée par le chômage. Donc c'est aussi pour ça que parfois la ville est un petit peu sous-estimée ou un petit peu décriée, parce que c'est un endroit où le chômage a frappé énormément et frappe encore. Ouais. Donc c'est aussi parce que c'est sous-estimé. Vous voyez, je crois que l'un aussi va avec l'autre.
Donc il faut reparler encore de Charleville-Mézières. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a une énergie dans cet endroit, et moi je suis d'accord avec vous, ces forêts profondes, ce côté sombre, ce côté un peu sauvage, je trouve que ça, justement, ça galvanise, ça remplit d'énergie. Vous êtes un peu un enfant de la forêt, vous êtes allé vous balader comme ça dans la nature?
Alors, un enfant de la forêt, je n'irai pas jusque-là.
Oui, j'ai pas dit que vous
aviez été élevé par des loups.
Vous vous sentez loup-garou,
Jérémy, non ? Je n'ai pas été élevé au milieu des cerfs et des lièvres.
Des sangliers, des ardennes.
Je n'irai pas jusque-là quand même. Le terme est hyper fort, enfant de la forêt. Mais en tout cas, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps dans la forêt parce que il y en a partout. C'est-à-dire que les forêts, on partage une immense forêt avec la Belgique. Et c'est vrai vrai que les forêts sont restées extrêmement préservées. Elles sont immenses, elles sont magnifiques. Il y a énormément de points de vue. En fait, on se rend pas compte, mais il y a des endroits qui sont très très hauts en fait dans les vallées, et c'est magnifique. Je pense au Quatre-Fils-et-Mont par exemple. C'est là où les Ardennais aiment beaucoup aller se balader parce que c'est très connu, c'est très très beau. Donc il y a des randonnées à faire, il y a des balades en VTT. Enfin, pour ceux qui aiment les randonnées, c'est des endroits qui sont vraiment magnifiques parce qu'encore une fois, j'insiste, c'est très préservé. Donc ça fait partie des plus belles forêts françaises, les forêts ardennaises.
Bon, Jérémy Ferrari, vous êtes un super ambassadeur de votre région. On vous garde. Vous restez avec nous. Dans un instant, on continue à découvrir les Ardennes. À tout de suite. 2 heures de voyage tous les après-midi, sans frontières, sans contraintes, juste pour le plaisir de s'évader sur Europe 1. Après 17h, je vous emmènerai au Japon. Vous savez que quand les Japonais parlent de leur pays, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot « wa ». Quand ils parlent de leur pays, ils disent « wa », et ça veut dire quoi, Jean-Bernard ?
L'harmonie. On aime l'harmonie dans cette émission.
Absolument. Bien joué, Jean-Bernard, il est incollable. Mais là, tout de suite, on retrouve les Ardennes, une terre de légende. D'ailleurs, son nom viendrait d'une déesse celte qui chevauchait un sanglier. Ça devait être un joli tableau.
Et cette
déesse se serait appelée, tout est au conditionnel, hein, parce que vraiment, je ne jure de rien, elle se serait appelée Arduina, qui signifie forêt profonde. Ouais. Il y a plein de petits trucs à raconter sur les Ardennes. Nous sommes avec Jérémy Ferrari, un vrai solide Ardennais en ligne. Jérémy, racontez-nous le lien très fort que vous avez avec le théâtre de Charleville-Mézières. C'est très important dans votre histoire.
Bah moi, je passais beaucoup de temps effectivement au théâtre. J'aimais beaucoup sécher les cours. Je suis pas un très bon élève. Bon, je m'en suis jamais vraiment caché, donc je séchais énormément les cours. Et j'allais tout le temps dans un bar qui s'appelait le Gonzague d'ailleurs, qui était juste en face du théâtre pour jouer aux échecs. Et donc je passais énormément de temps à jouer avec beaucoup des personnes âgées d'ailleurs. Ouais. Je passais beaucoup d'après-midi à jouer aux échecs avec ces gens. Et j'étais juste en face du théâtre. Et c'est comme ça que j'ai vu la petite annonce qui disait que il y avait des cours de théâtre que je prenais déjà au collège quand j'y allais, mais que je savais pas qu'il y avait un cours dans le centre-ville. Donc j'ai commencé le théâtre grâce à cette affiche que j'avais vue en séchant les cours, comme quoi.
Après j'ai passé les cours que vous avez réussi.
Je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai trouvé l'annonce et que j'ai vu qu'il y avait des cours de théâtre au théâtre de Charleville. C'est là où j'ai rencontré mon papa de théâtre, Bruno Nyon, qui était en train justement de redresser aussi le théâtre de Charleville. Quand il est rentré au théâtre, il y avait 200-300 abonnés dans le théâtre. Quand il en est parti, il y en avait plus de 2000. Donc ouais. Il a vraiment réussi à intéresser les carolomassériens au spectacle vivant. Et puis, moi, c'est devenu ma deuxième maison. C'est-à-dire que le théâtre de Charleville, il est magnifique, ce théâtre. Il est tout en pierre. Il est immense, il est vraiment très très beau et on a une programmation géniale dans ce théâtre. Culturellement, la ville est très animée parce qu'on est aussi la capitale mondiale de la marionnette, etc. Donc il y a beaucoup de choses.
Quand vous aviez 13-14 ans, pardonnez-moi, avec ce petit délai, je suis obligé de vous interrompre sauvagement. Quand vous aviez 13-14 ans, qu'est-ce que vous faisiez dans un théâtre à 13-14 ans ?
Eh ben très très étonnamment pas grand chose. C'était juste d'être dans le lieu en fait. L'odeur des pierres, l'ambiance, je sais pas, cette odeur de pierre, de mélange des fauteuils, des fumigènes du spectacle qui était là la veille, d'assister à des répétitions. Je faisais même mes devoirs quand je les faisais dans ce théâtre. J'aimais juste l'ambiance en fait. J'aimais juste entendre, voir des techniciens, fabriquer des décors, accrocher des lumières, bouger du matériel, voir des comédiens parfois répéter leurs textes même en silence dans un coin de la scène, etc. J'aimais juste cette ambiance. Ça m'apaisait beaucoup en fait. Le théâtre m'apaisait énormément et donc j'ai passé vraiment énormément de temps. Je sais que je passais pratiquement tout mon temps là-bas, quoi. Dès que j'avais un peu de temps libre, j'allais juste au théâtre.
C'est incroyable. Et alors, est-ce que c'est là que vous avez fait vos premiers pas?
Oui, tout à fait. C'est là que, j'avais commencé un peu avant, au lycée et au collège, je faisais déjà un petit peu de théâtre. Et c'est en rencontrant ce professeur, j'ai commencé à avoir très envie de faire du seul en scène. Et il m'a dit, tiens, si tu veux, on peut monter un spectacle avec des sketchs à toi, des premiers sketchs à toi, parce que j'avais commencé à écrire, et puis des sketchs de reprise de grands humoristes. Et donc, on a monté un spectacle d'1h15, 1h20, qu'on a programmé au départ au foyer du théâtre. C'était une petite salle de spectacle qu'il y avait au-dessus de la grande salle. Puis finalement, il y a eu une espèce d'engouement de ce jeune de 16 ans qui allait monter sur scène, etc. On a eu énormément de réservations. Donc j'ai basculé dans la grande salle et dans la programmation officielle du théâtre. Donc j'avais 16 ans et demi. Et donc c'est mon début de carrière. C'est le 3 novembre 2001. C'est la première fois que je suis monté sur scène seul, en étant payé, avec un public qui avait vraiment payé pour venir me voir. C'est le 3 novembre 2001. C'était au théâtre de Charleville-Mézières. Et j'ai su, parce que c'est pas pour faire un bon mot, pour raconter une histoire, pour émouvoir, c'est vraiment la vérité, c'est que j'ai su que ça allait être mon métier ce jour-là, parce qu'à un moment donné, je suis sur scène, je suis en train de jouer un sketch de Pierre Palmade, je me rappelle, puis à un moment donné, je sais pas trop vous expliquer pourquoi, mais j'ai mes doigts qui se collent à mon cou, et je sens mon cœur qui bat extrêmement lentement. Et je me souviens être en train de me dire, au moment où je suis en train de jouer, j'ai jamais senti mon cœur battre aussi lentement. Donc j'avais jamais été aussi apaisé finalement que devant ces 500 personnes en train de jouer un spectacle à 16 ans et demi. Et c'est là beau. Où je me suis rendu compte que c'était vraiment
histoire.
Ma place. Quoi.
C'est une très très belle histoire.
C'est très émouvant. Oui, c'est émouvant. Ouais.
Mais elle est vraie.
Et j'imagine que quand vous y retournez dans cette ville et dans ce théâtre, ça doit vous faire quelque chose. Vous y retournez souvent?
Alors j'y retourne plus vraiment souvent parce que mes parents n'y habitent plus. Ils avaient un petit commerce d'alimentation dans le quartier de Manchester qu'ils ont perdu malheureusement. Donc ils sont partis. Maintenant ils habitent dans le sud de la France. Donc j'ai encore un peu de la famille là-bas et je retourne de temps en temps voir mon prof de théâtre Bruno parce que il vit là-bas. Donc j'y retourne une ou deux fois par an, je pense. Par contre j'y vais systématiquement pour toutes mes tournées parce que ça je pourrais pas y couper. D'ailleurs j'y retourne là pour avec Anesthésie Générale nouveau spectacle. Et après j'aime y retourner parce que c'est la mentalité. Les gens qui sont extrêmement touchants dans cette région. C'est vrai que c'est une région qui a une image un peu rude et à juste titre. C'est ce que je veux dire, c'est que le climat peut être un peu rude, les paysages sont rudes, mais pour moi le mot rude n'est pas péjoratif. Ce que j'entends par rude, c'est quelque chose de puissant et de profond. Quand vous parliez des forêts qui sont sombres et puissantes, c'est vraiment ça. C'est une région en fait qui est chargée émotionnellement. Les gens, par exemple, la mentalité des Ardennais, elle est extrêmement joviale. Ce sont des gens qui, malgré la difficulté, malgré parfois le climat un peu compliqué, malgré parfois la difficulté parfois à trouver du travail ou des choses comme ça, ce sont des gens qui sont en permanence positifs, en permanence joyeux. C'est toujours « eh ben ça ira ». C'est des gens d'une grande générosité, d'une grande gentillesse, d'une grande empathie. C'est des gens qui savent écouter, qui savent... Enfin, je sais pas expliquer, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement prégnant dans cette région. Je dis pas que ça n'existe pas ailleurs. Je dis que dans cette région, c'est quelque chose qui m'a particulièrement marqué et je m'en suis aperçu d'autant plus quand je l'ai quitté, que j'en suis revenu. Vous voyez, parce que parfois, quand on est dedans, on se rend pas compte parce que finalement, on trouve tout normal. Mais quand on quitte cette région, quand moi, je suis arrivé à Paris, j'avais 17 ans, vous voyez. Et quand j'ai commencé à faire des allers-retours, je me suis rendu compte de la différence aussi entre une très, très grande ville, très impersonnelle et cette région particulièrement chaleureuse, malgré le climat parfois un peu froid.
Eh ben, dis donc, vous les aimez, vos Ardennes. Je peux vous dire que ça se sent.
Ça fait plaisir à entendre, d'ailleurs.
Ça fait plaisir. Merci beaucoup de nous avoir raconté vos Ardennes. On vous retrouvera, je le rappelle, sur scène au Parc des Expositions de Charleville-Mézières, comme par hasard. Le 20 février 2021 avec votre spectacle Anesthésie Générale. Et puis, bien sûr, Jérémy Ferrari, vous serez en tournée dans toute la France du 21 janvier au 31 janvier 2021 aux Folies Bergères à Paris. Merci beaucoup.
C'est ça.
Au revoir.
Merci beaucoup.
On se retrouve dans un tout petit instant avec les histoires savoureuses de Nathalie Elal, les histoires qui se nichent dans l'histoire. J'aime bien dire ça, je sais pas pourquoi, ça sonne bien. Ça me va. Dans l'histoire des Ardennes, bien sûr. À tout de suite sur Europe 1. Et si on partait sur Europe 1, voici Steppenwolf, Born to be Wild. Yeah, darling, go make it happen.
Born to be Wild, un des hymnes de la communauté des bikers, Steppenwolf.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait tout à l'heure, après le flash de 17h, je vous emmènerai au Japon, à l'époque des cerisiers en fleurs, quand les arbres dans les villes se couvrent de milliers de fleurs d'un rose délicat, subtil, très fin. Il n'y a qu'au Japon qu'on peut voir ça, c'est merveilleux. Pour l'instant, nous sommes dans les Ardennes, une région que l'on découvre depuis 16 heures et qui est vraiment sous-estimée. Elle est pleine de trésors. Par exemple, à Sedan, vous avez le plus grand château fort d'Europe. On ne le sait pas, ça. Le plus grand château fort d'Europe, le plus puissant château fort médiéval qui pouvait accueillir jusqu'à 4000 hommes. On en reparlera tout à l'heure avec Jean-Bernard Carrier. Nathalie.
Oui, c'est moi.
Je le refais.
Oui.
Nathalie, vous oui. adorez les légendes.
Oui.
Et les plus croustillantes.
Oui, alors là j'en ai une un peu, une histoire un petit peu en mode qui va à la chasse, perd sa place, mais avec une morale pas très gentille pour les femmes. C'est celle des trois dames de Meuse, changées en pierre pour cause d'adultère.
Aïe.
Alors je vous pose le décor, nous sommes dans la commune de Lefort, qui est située dans une boucle de la rivière de la Meuse, sur la rive gauche. C'est un des plus impressionnants paysages de la région, il faut bien le dire. Et nous sommes au XIe siècle, avec le seigneur de Hierges, qui a trois fils, qui épouse les filles du seigneur de Rethel, s'appellent Audierne, Berthe et Ige. Et peu de temps après leur union, eh bien, les trois jeunes hommes partent en croisade aux côtés de Godefroy de Bouillon, et alors qu'ils combattent en Terre Sainte, ce qui n'est pas franchement une partie de plaisir. Hein.
Ouais.
Leurs femmes pleurent un peu, mais comme elles ne se prennent pas non plus pour Pénélope, vous savez, qui attendait gentiment Ulysse en tricotant. Ça... Bon, alors elles vont s'éclater avec trois chevaliers. Alors s'éclater, vous avez compris. Hein,
oui, on a compris.
Joyeusement, on va dire bibliquement. Mais justement, Dieu les punit. Et lors de l'attaque de Jérusalem, où les maris sont particulièrement braves, et ben les vilaines sont changées en pierre, c'est-à-dire en trois gros rochers noirâtres qui surplombent la Meuse.
Elles sont directement
pétrifiées.
Punies avant même que les maris ne reviennent.
Exactement, pétrifiées, littéralement.
Et elles sont
non,
toujours
ça
là.
Ça rigole pas. Ben oui, c'est trois rochers qu'on peut toujours contempler. Alors, est-ce qu'il y a des dames derrière? Peut-être.
Bon. Eh bien, dis donc. Alors ça, c'était l'histoire rigolote.
C'était la légende sympathique de Nathalie.
Oui, parce que malheureusement, les Ardennes ont été le témoin de grandes batailles, de grandes guerres. Un peu à toutes les époques, hélas.
Oui. Alors là, je pense plutôt à l'une d'entre elles qui a changé le cours de l'histoire, parce qu'il s'agit de la chute du Second Empire et la fin de la dynastie des Bonaparte, c'est la défaite de Sedan le 2 septembre 1870 face à la Prusse. Six semaines plus tôt, Napoléon III a déclaré la guerre à la Confédération d'Allemagne du Nord, mais vraiment de façon maladroite et puis précipitée. Il n'a pas de soutien réel, il n'a pas non plus vérifié son armée qui va se retrouver littéralement enfermée à Sedan. Et il y a 83 000 prisonniers français, dont l'empereur. Alors il faut dire, à sa décharge, pauvre Napoléon III, il ne va pas très bien. Il a un caillou dans la vessie qui est très douloureux. On appelle ça la maladie de la pierre. Il va en mourir. D'ailleurs, il souffre le martyr. Mais c'est énorme parce que c'est la quatrième fois dans l'histoire de la France qu'un souverain est capturé sur un champ de bataille. Donc on signe bien sûr la capitulation au château de Bellevue, sur une hauteur à quelques kilomètres de Sedan. Et puis évidemment les nouvelles se répandent très vite. À Lyon, à Marseille, à Paris, on apprend ce désastre. Donc l'empereur est déchu et la Troisième République est proclamée. Le gouvernement provisoire va tenter de poursuivre la guerre, mais les Prussiens, eux, se dirigent à marche forcée vers Paris. Et là, la capitale va subir un siège éprouvant jusqu'à l'armistice de janvier 1871. Les Parisiens vont bouffer les animaux du zoo et même des rats.
Ah bon ?
À la place de l'hôtel de ville, on vendait des rats, mais c'est une autre histoire.
Quelle histoire, dis donc.
Oui.
Et c'est vrai que les Ardennes n'ont pas été gâtées côté guerre.
Ah
hein.
Non.
Je veux dire que c'est le seul département à avoir été occupé durant toute la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale. soit 52 mois passés sous le joug ennemi. Et ce n'est pas la seule fois où ils ont souffert. Pour parler encore des Ardennes, mais alors sous un autre aspect plus littéraire, on a évoqué tout à l'heure Arthur Rimbaud, bien sûr, mais vous avez dégoté un autre personnage.
Oui, il s'agit d'un homme au nom très connu qui a vraiment révolutionné le monde de l'édition et de la presse. Il l'a littéralement façonné sous sa forme actuelle, ou presque. Il s'agit de Louis Hachette.
Oui.
Alors, il est né à Rethel en 1800, dans les Ardennes, donc origine modeste, hein, paysanne. Puis sa mère devient lingère au lycée Louis-le-Grand à Paris, donc il la suit. Il est inscrit à ce lycée, c'est un bon élève. Il se dirige vers l'enseignement. Puis il change un peu, il entame des études de droit et s'achète un brevet de libraire-éditeur. Et grâce à ses contacts dans le milieu de l'enseignement, il va fonder la librairie classique Hachette. C'est une toute petite maison d'édition, mais tout de suite, il se spécialise dans les ouvrages d'instruction et sa maison est située dans le quartier des Écoles à Paris.
Mais alors comment il passe d'une petite maison toute modeste à un empire ?
Mais parce que c'est un vénard, ce Louis Hachette ! Et puis c'est aussi un super alignement de planètes. Hein. C'est-à-dire qu'en 1833, il y a la loi Guizot qui va généraliser l'instruction publique primaire. Et donc, il va réussir à imprimer un maximum de manuels, de dictionnaires, de cahiers d'exercices, de corrigés, de guides du maître qui se vendent comme des petits pains. Le premier manuel scolaire, c'est lui qui va l'éditer. Et il est vendu à plus de 500 000 exemplaires. Il développe un véritable monopole dans les commandes des communes et des administrations. Il lance des collections, par exemple la célèbre Bibliothèque Rose que beaucoup d'entre nous ont connue,
bien sûr. Donc ça devient un capitaine d'industrie.
Ah oui, puis vous allez voir à quel point il est novateur. Par exemple, le kiosque de gare, c'est lui qui l'invente.
Il a inventé les kiosques de gare.
Absolument, c'est Hachette, Louis Hachette qui invente le kiosque de gare.
Il avait des idées.
Ah, il avait beaucoup d'idées. Il a même aussi inauguré la Compagnie des chemins de fer du Nord. En fait, il a copié un petit peu l'idée là, chez les Britanniques. Et du coup, il va ajouter à son catalogue les premiers guides de voyage et puis surtout les éditions à bon marché, c'est-à-dire les ancêtres du livre de poche. Le contrat d'auteur, la publicité, le service de presse, le livre illustré et même la standardisation du livre format papier, bah, c'est encore Louis Hachette. Alors, un petit bémol hein, quand même à tout cet enthousiasme débordant. Il est quand même moyennement passionné par les grands écrivains de son temps. Par exemple, il va rater la proposition de collection d'un certain Émile Zola, qui est son employé. Donc ça, c'est un peu dommage quand même. En tout cas, lorsque Louis Hachette meurt en 1864, son entreprise d'édition est devenue un empire florissant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, eh bien, Hachette Livre fait partie du groupe Lagardère et c'est le premier groupe d'édition français et le premier distributeur.
Ah, non, passionnant.
Gloire à Hachette.
Passionnant. Merci Nathalie Elal. À suivre sur Europe 1, les bons petits plats des Ardennes. Enfin, bon petit, vu que c'est une terre de bûcherons, ça doit être du solide quand même.
Oui, c'est solide, mais c'est bon.
Avec Emmanuel Jarry dans un instant sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Tout à l'heure, après 17h, nous partirons en Extrême-Orient, et je dirais même en Extrême-Ailleurs. Extrême-Ailleurs, pas forcément au fin fond d'une forêt dense, hein. Un Extrême-Ailleurs dans une des zones les plus urbanisées, les plus modernes de la planète. Et pourtant, là où la culture et le mode de vie, et même la relation à l'autre est extrêmement différent, nous partirons pour le Japon. Pour l'instant, nous sommes en France, dans une très belle région de nature, de forêt, de falaises. Et côté assiette, ça va être un peu roboratif, non Emmanuel ?
Oui, c'est roboratif, mais moi ça ne me fait pas peur. J'aime bien les plats, j'aime bien les plats costauds, hiver comme été.
Rien ne vous fait peur.
En fait, c'est une région de forgerons et de paysans. Donc effectivement, sans tomber dans la caricature, il faut dire que c'est plutôt des nourritures qui nourrissent, on va dire. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que c'était une cuisine du pauvre. Et quand on n'a pas beaucoup d'ingrédients, il faut des idées.
Ouais.
Et donc il y a un plat qui est emblématique des Ardennes qui s'appelle la cacasse à cul nu.
Oh, j'adore.
Cacasse à cul nu.
Nathalie. Alors pourquoi cul nu ? Parce qu'en fait, c'est des pommes de terre et on ne mettait pas grand-chose dedans. On les frottait avec du lard, on les frottait avec des oignons, on les faisait cuire juste pour les parfumer. En fait, on les frottait. Et cul nu, parce qu'elles n'avaient rien, quoi.
Ah, d'accord. Ouais, et pourquoi cacasse ?
Je crois que c'est le nom qu'on donnait aux pommes de terre.
Ah d'accord, c'est rigolo ça. Et ça se fait toujours ?
Oui, ça le fait toujours, sauf que maintenant, la cacasse est, comme on dit, culottée, parce qu'en fait, on met de la viande. On a rajouté du lard, Oui, c'est pour Nathalie, ce plat.
Mais c'est vrai, je pense que c'est un plat qu'elle va déguster ce week-end.
Donc, sans slip.
Voilà. Nathalie.
En tout cas,
vous êtes bien sur Europe 1, hein, tout va bien.
Des plats, il y a beaucoup de lard en fait. Il y a une autre salade, la salade au lard, qui est un plat du pauvre, mais avec un peu plus d'ingrédients. On met des pissenlits qu'on va cueillir dans la nature, donc ça coûte trois fois rien. Ouais. On met des pommes de terre, des échalotes, qu'on fait déglacer avec du vinaigre. Voilà, mais c'est cette petite cuisine de tous les jours, mais inventive.
Et si on veut mettre un tout petit peu plus de sous, qu'est-ce qu'on
mange ? Oui, voilà. Et ben alors, en fait, du gibier, par exemple. Ah ouais. Alors, c'est vrai que les Ardennes, c'est une grande terre de chasse. On compte un chasseur pour 10 habitants. Donc, aujourd'hui, on prépare une grande spécialité, c'est la terrine à gros gibier, c'est-à-dire qui est faite avec sanglier, cerf, biche, daim. Alors, soit on mélange les viandes, soit on fait juste une terrine de sanglier. Mais jusqu'au 19e siècle, on préparait des pâtés. Et ce qui signifie que la viande est entourée de pâtes. D'ailleurs, quand on dit pâté en croûte, en fait, c'est un pléonasme.
C'est dingue, on apprend ces trucs.
La croûte à la croûte, bah oui, voilà ça. Et en fait, la pâte, à l'époque, on ne la mangeait pas. Elle servait à protéger la viande pendant la cuisson et aussi pour... on transportait beaucoup les pâtés. Donc ça permettait de la protéger parce que c'est des choses qu'on offrait, les pâtés de gibier, comme aujourd'hui on offre des bouquets de fleurs. Quoi,
d'accord, voyez, quand on c'est dingue.
Ouais.
Et alors, hors saison de chasse, qu'est-ce qu'on peut manger ?
Alors, il y a un grand produit emblématique de la région, c'est le boudin blanc de Rethel, qui est à base de cochon. Autour de Rethel, il y avait beaucoup de production de cochons et on retrouve ça dans les noms des villages. Château Porcien, Chaumont Porcien, donc c'est là où on élevait des porcs. Et aujourd'hui, il est vendu dans toute la France par la famille Demoiset qui tient la recette de la descendante du cuisinier de Mazarin.
Ah, et c'est une bonne recette ?
Oui, alors bah, elle a une IGP aujourd'hui, donc c'est le seul boudin blanc français qui a une IGP, indication géographique protégée. Mais alors, donc, le cuisinier de Mazarin s'était réfugié dans les Ardennes parce qu'il aimait beaucoup se battre en duel. Et les duels avaient été interdits, donc voilà, il s'est réfugié là, il s'est caché, il est devenu charcutier. Et puis à l'époque, on faisait une bouillie blanche à base de porc, de lait et d'œufs. Et quand Mazarin est venu lui rendre visite dans la région, il avait d'ailleurs un château qui n'existe plus, enfin qui est en ruine. Il a eu l'idée de mettre cette bouillie dans des boyaux de porc pour la rendre plus présentable. Et c'est comme ça qu'est né le boudin blanc de Rethel.
Ah, oui.
Et alors aujourd'hui, vraiment, c'est une grande spécialité française. Alors la base, qu'ils aiment bien faire, c'est qu'ils ouvrent le boudin, vous voyez, comme on ouvre un sandwich, du pain pour un sandwich. Ils mettent du fromage, ils l'entourent de lard et ils le font revenir au beurre.
Ah bah ça doit être léger.
Voilà, c'est pour ça que c'est des nourritures solides, mais ça n'en est pas moins très 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 bon et très savoureux.
Quand il fait moins 10 degrés, c'est pas mal. Quand
exactement, on en parlait tout à l'heure des températures extrêmes.
Parole d'expert. Hein.
Ils appellent toujours ça boudin blanc ou ça un nom
ouais,
particulier
non, boudin d'accord. blanc de Rethel et la d'accord. famille qui commercialise, bon il y en a plusieurs, mais qui détient la recette, c'est la famille Desmoiset et en fait l'arrière-grand-père de l'actuel propriétaire a récupéré la recette dans une enveloppe scellée le jour où il a signé l'acte notarié de l'achat de la charcuterie parce que la femme, donc la descendante du cuisinier de Mazarin, avait dit le jour où j'aurai l'argent, je transmettrai la recette. Donc elle savait mener ses affaires.
Bon, quelle histoire. D'accord.
Mais donc c'est un boudin, c'est vrai qu'on consomme toute l'année, mais peut-être plus en période de fête. Et pendant cette période de fête, on consomme aussi beaucoup dans les Ardennes du sucre rouge.
Du sucre rouge ?
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une petite...
sucre au vin.
Ah oui, alors c'est pas tout à fait, mais c'est un petit produit que je trouve merveilleux parce qu'en fait, c'est des petites figurines translucides et en fait, c'est du sucre qui est chauffé. On ajoute un colorant naturel et quand il est devenu liquide, on le verse dans des moules en fonte. Et donc, ça représente des animaux, des chats, des chiens, des personnages comme la Saint-Nicolas parce que c'est des sucres qu'on offrait pour la Saint-Nicolas aux enfants. Et en fait, c'est des recettes qui avaient été inventées par les forains parce qu'ils travaillaient de Pâques à la Toussaint et puis après, quand ils s'arrêtaient, bah, ils fabriquaient ce sucre rouge et un peu c'est le sucre qui recouvre les pommes d'amour, vous savez qu'on mange pendant les fêtes.
Ah, c'est bon ça.
Ouais, voilà. Et donc c'est ces petits personnages en sucre qu'on déguste pendant les fêtes.
Très bien, merci beaucoup Emmanuel Jarry. On a l'eau à la bouche maintenant. Dans un petit instant, Jean-Bernard Carrier et ses bons conseils pour aller découvrir les Ardennes. À tout de suite sur Europe 1. Et voici Louane, premier extrait d'un nouvel album à paraître à l'automne. Ce sera son troisième album. Le titre, Donne-moi ton cœur, sur Europe 1 dans Et si on partait ?
Donne-moi ton cœur, ta main et le reste. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Tes peurs, chagrin et le reste. Dis-moi qui tu es, qui tu es. J'imagine un monde céleste. Où personne ne sort, non. Où personne ne reste. J'imagine un cri, des cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi. C'est peut-être toi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice. Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tintamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir l'ombre de l'autre toi. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois. Celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir en toi tout ce que je suis pas. Dis-moi qui tu es, mais surtout s'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es. S'il te plaît, donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es. Qui tu es.
Louane qui revient avec ce titre « Donne-moi ton cœur », un titre écrit par Damso, le rappeur belge, sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait, nous sommes dans les Ardennes. Et là, je vois un grand sourire sur le visage de Jean-Bernard Carrier, car il adore Rimbaud. C'est un poète, Jean-Bernard.
En fait, comme vous, Philippe, je suis un fan de ce poète. L'homme semelle devant, on l'a dit, il est né, il a grandi à Charleville-Mézières. Alors, c'est un poète qui m'inspire, pas simplement par ses écrits, il faut bien le dire, mais par le rapport assez unique qu'il a à sa ville, à sa région d'origine. Il l'a tant de fois quitté. Et il est toujours revenu. C'est ça qui est fascinant. Ouais. Alors justement, je suis allé à Charleville-Mézières il y a quelques années. J'ai fait un parcours de visite qui permet de découvrir la ville en suivant les pas de Rimbaud. C'est la principale attraction touristique de la ville. Ce parcours passe par les différents lieux que le poète a fréquentés durant son enfance et son adolescence. Et se finit évidemment au cimetière où il a été inhumé en 1891. Rimbaud, c'est vraiment le fil rouge de ce parcours urbain. C'est un pèlerinage littéraire en quelque sorte. Je précise bien sûr que tout ça, ça se fait à pied.
Alors les étapes principales, qu'est-ce que
c'est ? Alors je vous donne les principales étapes, les grands moments, les temps forts de ce parcours. On commence bien sûr par la maison natale de Rimbaud. On passe par le square de la gare SNCF où se trouve d'ailleurs un magnifique buste du poète. On voit aussi le collège qu'il a fréquenté. À mon avis, il doit avoir quelques bonnes notes en français, Nathalie.
Oui, oui,
je pense.
Précoce,
voilà, c'est
oui,
ça.
Oui.
Et puis, bien sûr, la pièce maîtresse, c'est le musée Arthur Rimbaud, qu'il ne faut vraiment pas louper quand on visite Charleville. C'est là qu'on voit la vie, l'œuvre de ce poète. Il y a plein de documents historiques, des manuscrits qu'il a laissés et des objets personnels même. Une montre, des vêtements, une valise. Et c'est logé dans une belle bâtisse du 17e siècle. Je dois dire, c'est une visite émouvante parce qu'on rentre un petit peu dans le rêve et les illuminations du poète. En fait, on quitte Charleville, on quitte la ville et on rentre vraiment dans la tête de Rimbaud. J'aime beaucoup cette atmosphère.
Ouais, et puis sa vie est incroyable.
Et sa vie est complètement incroyable.
Elle l'a amené jusqu'en Éthiopie. D'ailleurs, il a eu des moments un peu sombres.
C'était un trafiquant, trafiquant d'armes. Voilà, donc c'est un petit magouilleur, en fait.
Il n'a pas fait que ça.
Génial.
Il n'a pas fait que ça, mais il était marchand. Il vendait un peu de tout, disons.
Voilà, il vendait de tout, ouais. Alors ensuite, juste en face du musée, il y a ce qu'on appelle la maison des ailleurs. C'est là où Rimbaud a vécu avec sa famille de 15 à 21 ans. C'est sa période la plus prolifique. C'est là qu'il a eu une intense production poétique. Alors, à mon avis, on dit qu'il a fait pas mal de fugues. Hein, ça ne devait pas être un adolescent très facile à élever. Mais sa maison se visite, donc c'est aussi une halte obligée. réfugiés.
Alors ça, c'est le parcours classique. Mais depuis quelques années, il y a des petites initiatives nouvelles autour de Rimbaud.
Et c'est ça qui est génial, en fait, à Charleville, c'est que le parcours Rimbaud, c'est un parcours qui est évolutif depuis quelques années. C'est un parcours qui est enrichi par la mise en place d'œuvres d'art contemporains, notamment des fresques murales qui sont réalisées par des street artistes depuis 2017. Et c'est ça que j'adore, parce que ça donne une touche dynamique et colorée à la balade. Par exemple, sur le quai Rimbaud, il y a des chaises poèmes qui ont été faites par un artiste contemporain.
Des chaises poèmes.
Ouais, en fait, c'est des chaises qui ont été sculptées. Et sur le fond de la chaise, il y a un poème de Rimbaud qui a été gravé. Donc vous vous asseyez sur un poème de Rimbaud.
On met ses fesses sur Rimbaud.
Sur un texte. Ça inspire peut-être, je ne sais pas.
Sur tout le poème ou sur une strophe?
Sur une strophe du poème, voilà, exactement. D'accord. Et il y a aussi, bien sûr, beaucoup de peintures murales. Alors ça, j'adore, parce que c'est des immenses fresques colorées sur un certain nombre d'immeubles dans la ville. Mon préféré, c'est celui qui a le poème Ophélie, qui a été fait en 2017, donc c'est vraiment récent. On y voit une femme de dos, le haut du corps partiellement dénué, avec une strophe du poème Ophélie. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélie flotte comme un grand lys. Et vous avez ça en plein centre de Charleville-Mézières. C'est franchement un habillage qui est superbe, qui est fait par des street artistes. C'est évolutif, je l'ai dit, chaque année des appels à projets. Donc si vous y retournez au mois d'août de cette année et l'année prochaine, il y aura d'autres façades qui seront embellies de poèmes de Rimbaud.
Et vous voulez toujours dire street artiste, vous ne voulez pas dire artiste de rue?
Oui, ou des artistes de rue, si vous voulez. Et je précise, des artistes de rue de la région pour la plupart.
D'accord.
Ouais, des Ardennais.
Et est-ce qu'il y a une autre ville que vous avez aimée? Moi, j'adore Rocroi.
Alors, on a parlé de Rocroi. Vous avez brièvement évoqué la ville de Sedan. Ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup Sedan. Je trouve que là aussi, c'est une ville qui est sous-estimée, injustement ignorée, encore plus que Charleville. Alors, c'est vrai qu'elle a eu un peu la poisse dans son histoire. Vous l'avez dit, Nathalie, cette fameuse défaite de Sedan, qu'elle traîne comme un boulet, l'occupation de la ville par les Allemands dès le début de la Première Guerre mondiale, l'exode massif des habitants en 1940. Mais j'allais dire, tout ceci, c'est de l'histoire ancienne. Soyons dans l'actualité, soyons dans le modernisme. Aujourd'hui, Sedan revient dans la course avec son superbe château fort, Philippe. Vous l'avez dit.
Le plus grand d'Europe.
Le plus grand d'Europe. Et ce que j'adore dans ce château, parce que je l'ai visité, c'est que c'est vraiment le château fort tel qu'on l'a imaginé dans notre enfance quand on jouait aux petits soldats. Ouais. C'est vraiment ça. C'est un château de rêve, avec des tours énormes. Il y a des fossés, un pont-levis, d'impressionnantes fortifications. Certains remparts font même jusqu'à 26 mètres d'épaisseur.
Ah, c'est un monstre.
C'est un monstre. Donc il y a une impression de solidité au-dessus de la ville. C'est pas quelque chose qu'on trouve très souvent dans notre pays.
Ouais. Et alors la Meuse, c'est pareil, quand on dit ce mot Meuse, on se dit bof, mais pourtant c'est magnifique.
Oui, mais pourquoi on dit bof? Ben voilà, les méandres de la Meuse, Emmanuel, c'est ça qui donne tout ce charme à cette région. Il y a plein de creux, plein de bosses. Alors, Sedan et Charleville sont traversés par la Meuse, je dois le dire, mais il faut descendre le cours du fleuve, c'est-à-dire aller vers le nord, vers la Belgique, jusqu'à Givet, vers la frontière belge, et c'est là qu'on découvre des pépites. Nathalie, je ne sais pas si vous connaissez le village de Monthermé.
Non, ça je ne connais pas, mais je voulais juste vous dire qu'on trouve beaucoup d'herboristes et que c'est assez rare pour être signalé, parce que c'est un métier en voie de disparition.
Tout à fait, mais ça c'est la caractéristique de la vallée de la Meuse. Le village de Monthermé, je voudrais quand même en dire un petit mot, c'est la perle des Ardennes, parce qu'il est vraiment lové dans une des plus belles boucles du département, et tout autour il y a des falaises et des forêts avec de super points de vue, et c'est là que vous avez un panorama complètement dégagé sur cette vallée, et c'est là que vous prenez conscience de la beauté du site.
Jean-Bernard, deux pistes pour profiter de la vallée de la Meuse côté français.
Eh ben, côté français, c'est la voie fluviale. Vous louez une pénichette, c'est très facile, génial, ça se fait partout. Ouais. Passer des écluses, c'est super sympa à manœuvrer, aucune difficulté technique. Et puis l'autre moyen, si vous avez un petit peu plus de jambes, eh ben, c'est la voie verte à vélo. On suit les chemins de halage le long de la Meuse. Vous vous arrêtez où vous voulez, il y a plein de petits hôtels où vous pourrez passer la nuit. C'est vraiment une expérience à ne pas manquer quand on veut découvrir cette belle vallée de la Meuse.
Merci beaucoup Jean-Bernard, merci les amis. J'espère qu'on vous a tous donné envie de partir dans les Ardennes. C'est une région qui le mérite. Dans un instant, après le flash, on ira un tout petit peu plus loin, dans un pays extrêmement loin, extrêmement différent. Un pays qu'il est parfois difficile d'appréhender, mais on va s'y atteler lentement. Sa culture est incroyablement riche. Nous irons au Japon après le flash de 17h. A tout de suite. Vous êtes sur Europe 1. Il est 17h, les infos, Marguerite Lefebvre.
Face à la recrudescence des contaminations, le gouvernement instaure de nouveaux contrôles aux frontières. 16 pays sont désormais inscrits sur une liste rouge. Tous leurs ressortissants devront obligatoirement se faire tester à leur arrivée sur le sol français. Parmi ces pays figurent les États-Unis, Israël, le Brésil, l'Algérie ou encore le Maroc. Voilà le nouveau dispositif présenté cet après-midi par le Premier ministre. En déplacement à l'aéroport de Roissy, Jean Castex a par ailleurs fait une recommandation. Il demande aux Français de ne pas se rendre en Catalogne. Ça n'est pas une obligation, mais une recommandation des autorités en raison des conditions sanitaires sur place. Ce vendredi est marqué par l'actualité sociale. Ces salariés qui tentent de sauver leurs emplois. À Lille, les salariés de Camailleux sont toujours réunis devant le tribunal de commerce. Ils attendent la décision des juges qui étudient les offres de reprise de cette enseigne placée en redressement. Et puis en Moselle, plusieurs centaines d'ouvriers de l'usine Smart de Hambar ont manifesté à Sarreguemines ce matin. Le groupe Daimler veut vendre le site qui emploie 1500 personnes. Les salariés redoutent de perdre leur emploi. Le Chilien Nicolas Zepeda est arrivé au palais de justice de Besançon. Il a posé le pied en France ce matin après son extradition par le Chili. Les juges français vont enfin pouvoir l'interroger. Il est le principal suspect du meurtre de Narumi, cette jeune étudiante japonaise portée disparue depuis 2016. Elle était alors étudiante à Besançon. Nicolas Zepeda n'aurait pas supporté leur rupture. À Grenoble, les 6 jeunes du quartier de la Villeneuve qui ont sauvé 2 enfants vont obtenir la médaille de la ville. Une cérémonie sera organisée à la mairie la semaine prochaine, lundi soir. Ils ont guidé, rassuré, puis réceptionné les 2 garçons de 3 et 10 ans qui ont sauté d'une quinzaine de mètres pour échapper aux flammes. Dans cette affaire, une enquête est toujours en cours pour déterminer la responsabilité des parents. Aucun d'entre eux n'était présent dans l'appartement au moment du drame. C'est un appel à la prière hautement symbolique qui a retenti à Istanbul tout à l'heure. Appel depuis Sainte-Sophie. L'ancienne basilique a été transformée en mosquée, retransformée en mosquée. C'était un projet du président turc Recep Erdogan. Une première prière musulmane a donc eu lieu tout à l'heure à Sainte-Sophie. Toujours à l'étranger, les États-Unis ont décidé de fermer le consulat chinois de Houston. Un message selon les Américains pour que la Chine cesse d'espionner. Chine qui a décidé de riposter ce matin, œil pour œil, dent pour dent. Pékin ordonne la fermeture du consulat américain de Chengdu, une grande ville du sud-ouest de la Chine. Prudence, si vous prenez la route aujourd'hui, ce sera le début d'un long week-end de départ en vacances. Prudence donc dans la soirée. Et surtout concentrez-vous, l'inattention provoque de plus en plus d'accidents sur l'autoroute. C'est la cause aujourd'hui d'un accident mortel sur 5, notamment en raison du téléphone. Le football reprend peu à peu ses droits. Premier match ce soir en France depuis le début de l'épidémie. Premier match en compétition. PSG Saint-Etienne, c'est l'affiche de la Coupe de France. Coup d'envoi à 21h10. Match à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. 17h03 sur Europe 1, c'est le retour de Philippe Googler.
Merci Marguerite Lefebvre. L'info revient tout à l'heure à 18h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et si on partait, deuxième heure, c'est le moment de partir encore plus loin, juste pour le plaisir de rêver. Décollage maintenant.
16h, 18h.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Je vous emmène aujourd'hui sur une île pas comme les autres. Un morceau de terre bien plus petit que la France, mais qui compte 2 fois plus d'habitants. Et 80% de la population vit là-bas, dans des villes gigantesques. C'est un voyage vers un mode de vie complètement différent, une culture différente et une énergie qui intrigue. Je vous emmène aujourd'hui au Japon. Alors arrivé à Tokyo, la première sensation c'est le monde, la foule partout. C'est une des aires urbaines les plus peuplées de la planète. Le quartier de Shibuya, c'est l'un des plus emblématiques de la ville, l'un des plus électriques, avec en son centre un énorme carrefour entouré de buildings eux-mêmes couverts d'immenses écrans vidéo qui diffusent des pubs, mais avec le son. Un bon gros son qui vous fait comprendre que vous êtes vraiment dans le temple du shopping. Et Tokyo peut être un peu désarçonnante. Moi, j'ai vraiment eu du mal à m'y retrouver. Les repères ne sont pas les mêmes. En France, quand vous faites du shopping, soit les magasins donnent dans la rue avec une vitrine, soit vous êtes dans un centre commercial et vous avez des rues à l'intérieur avec des vitrines. Et là-bas, il y a une troisième formule. Pour trouver ce qu'on veut, il faut rentrer dans les immeubles. Mais des immeubles d'apparence absolument banale, comme un immeuble d'habitation, avec une petite entrée, un escalier, un petit ascenseur. Et il faut savoir que, par exemple, au premier étage, il y a un magasin de vêtements, au deuxième étage, un cabinet d'avocat, au troisième, c'est toilettage pour chien. Il faut tout connaître. Et comme c'est écrit, et en plus de manière succincte, en japonais, évidemment, on est très perdu. Il faut savoir dans quel immeuble entrer, à quel étage aller. C'est pas simple du tout pour un petit Français. Et mon moment préféré pour aller au Japon, c'est le printemps. C'est le moment où les cerisiers sont en fleurs et vous savez que les Japonais vouent une vénération pour les cerisiers en fleurs. Et c'est vrai que quand ils éclosent, c'est une véritable fête nationale et c'est magnifique. Il y a des cerisiers partout dans les parcs. Il faut imaginer des dizaines d'arbres qui tout à coup se couvrent de fleurs d'un rose léger. C'est beau, c'est délicat et vous pouvez compter sur les Japonais pour bien ordonner tout ça. Et dès les premières fleurs, la tradition veut qu'on vienne s'installer avec la nappe et le panier pique-nique dans les parcs pour festoyer sous les bourgeons. Je peux même vous dire qu'il y a une tradition qui dit que si un pétale tombe dans un verre, il faut trinquer de plus belle car c'est le signe que la chance est à venir. Voilà, ce moment magnifique des cerisiers en fleurs au Japon s'appelle le Hanani et il est tellement important qu'à la télévision, tous les soirs, vous avez la météo des cerisiers avec un présentateur devant une carte qui vous fait la météo pour savoir où sont les cerisiers qui ont déjà fleuri, là où ils se font attendre et là où il ne faut pas aller pour le moment parce que ce n'est pas encore fait. Bon, tout ça est assez magnifique, assez joyeux, mais il faut savoir que le week-end, on vient avec le saké sous les cerisiers et qu'au bout d'un moment, évidemment, on passe de la version très, très mesurée, très polie des Japonais à un côté, disons, un peu plus relâché. On peut d'ailleurs en profiter pour tisser des liens, car il y a une vraie réserve, une vraie pudeur, presque une timidité chez beaucoup de Japonais. Et quand on va au Japon, ce qui est le plus long, c'est pas le voyage en avion, c'est d'essayer justement d'approcher, de comprendre les Japonais. Et ça, c'est le plus beau des voyages.
16h, 18h.
Et si on partait ? Philippe Googler.
Dans un instant, nous serons en ligne avec un Français, Xavier Andoujar, qui est installé à Osaka et qui nous racontera, lui, comment il a vécu ses premières heures au Japon, comment il a tissé des liens avec les Japonais, dans quelques secondes sur Europe 1.
16h, 18h.
Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 tous les jours, un grand voyage entre 16h et 18h. Nous sommes au Japon avec mes amis voyageurs Nathalie Elal.
C'est moi.
Avec Emmanuel Jarry, notre gastronome.
Présente.
Avec Jean-Bernard Carrier.
Toujours là.
Notre guide du guide Lonely Planet. Alors, le Japon, c'est loin.
C'est à exactement à 9700 km à vol d'oiseau de ce studio, Philippe. Ouais. Donc, il faut compter entre 10 et 12 heures d'avion.
Ouais.
Quand ça reprendra, bien sûr. Dans quelques mois, espérons-le. Alors, le Japon, il faut quand même dire, c'est un archipel.
Oui.
Ce n'est pas une seule île, c'est 4 grandes îles, plus encore un filet d'îles tout au sud. Et ça fait plus de 3000 km. Si on suit l'ensemble de cet archipel, ça fait plus de 3000 km. Donc, c'est grand et c'est assez fin.
Voilà. Et c'est très différent du nord au sud.
Hein. Voilà, donc il y a différents climats, différentes régions, et il y a deux mers. Il y a la mer du Japon sur la gauche, et vous avez l'océan Pacifique sur la droite.
Nous sommes en ligne depuis le Japon avec Xavier Andoujar, qui est français, installé à Osaka, marié à une japonaise, accompagnateur photographe au sein de l'équipe des Japon Safari. Bonjour Xavier.
Bonjour Philippe, et bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
Il est quelle heure au Japon là ?
Eh bien là, il est minuit 11, très exactement.
Ah bon, on doit vous remercier alors, parce qu'on vous fait coucher tard.
Oh, ça va, ça devrait aller, je suis encore jeune et fougueux.
On n'en manque pas de temps.
Joli programme. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir longtemps au Japon comme ça ?
Alors moi, ce qui m'a poussé à partir au Japon, c'est que j'ai fait une dépression en France et j'ai eu beaucoup de soucis. Et pour me sortir de tout ça, j'ai décidé de tout quitter et de partir dans un pays qui était très difficile d'accès.
Ah, vous vouliez quelque chose de complètement différent, complètement changeant ?
Je voulais perdre tous mes repères et puis repartir de zéro, on va dire, pour vraiment me sortir de tous ces problèmes et, et trouver ma voie.
Et est-ce que vous l'avez trouvé ?
Je pense, oui.
Ouais.
Je pense que là, je suis bien installé au Japon. C'est assez agréable à vivre.
Vous avez rencontré une japonaise qui est devenue votre femme ?
Tout à fait.
Ouais.
Alors, je l'ai rencontrée en France en apprenant le japonais.
Ah bon ?
Oui, parce que j'ai décidé d'apprendre le japonais avant de partir au Japon, parce que je savais que le Japon sans parler et lire le japonais, c'était un peu compliqué.
Ouais. Nathalie ?
Xavier, autant... les femmes japonaises oui. ont la réputation d'avoir un caractère bien trempé. Est-ce que vous confirmez ?
Je confirme.
Autoritaire, autoritaire, paraît-il.
Pas forcément autoritaire, bon, mais elles ont un vrai bon caractère. Ouais, ça, c'est, ouais. c'est fun, tous les jours.
Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'intrigue beaucoup, parce que j'ai voyagé un peu au Japon, moins que vous, c'est la relation aux Japonais. C'est difficile, je trouve, d'échanger, simplement d'échanger, de se comprendre. Comment vous racontez ça, vous ?
Ben, ça prend des années, en fait. Quand on arrive, les premiers instants au Japon, on est français et on a nos caractères de français, on a nos attitudes de français et on est un peu brut par rapport aux Japonais. Les Japonais sont très discrets, ils sont toujours un peu cachés, il faut toujours percer un petit peu le mystère, ils sont pas en train de crier comme les Français, ils montraient jamais leurs sentiments. Donc tout ça, il faut le percer. Et puis petit à petit, on se fait des amis, on rencontre des gens et tout prend forme.
Il y a quelque chose de très subtil. Par exemple, ils ont du mal à dire non. C'est difficile d'avoir un refus. Alors qu'en fait, ils savent tout à fait ce
qu'ils veulent. On ne dit jamais non, en fait. C'est ça. En fait, on ne dit jamais non parce que dire non, c'est faire une agression envers l'autre quelque part. C'est abrupt, le non. Pour les Japonais, on ne fait jamais de choses abruptes. On est toujours empoulé. On fait attention à tout.
Mais alors, comment ils disent non quand ils veulent dire non alors qu'ils ne peuvent pas dire non ?
On le fait comprendre en expliquant que ah, vous voulez faire ça, mais c'est-à-dire que je comprends ce que vous voulez faire, mais c'est un peu compliqué. Il va falloir faire ci, faire ça. C'est un peu difficile. Ils vont empouler les choses de cette manière. Ils diront jamais non directement.
Ouais. Et alors, moi, ce qui m'épate aussi, et ça se sent même dans les transports en commun, c'est l'attention portée à l'autre.
C'est permanent, en permanence, ils sont sans arrêt à faire attention à l'autre. Le japonais, c'est vivre en société, en groupe. Comme le pays est à 75% de montagne, deux fois plus de population que la France, deux fois moins de territoire. Finalement, on se retrouve avec des villes qui sont très compactes, avec énormément de monde dans ces villes-là. Et ils sont obligés de faire des efforts pour savoir vivre tous ensemble. Ils prennent soin les uns des autres.
Alors, ça se traduit très concrètement. C'est-à-dire qu'on ne se bouscule pas. Il y a toujours une distance. La distanciation sociale, ils connaissent ça naturellement.
Toujours.
Toujours comme ça. Même quand le métro est bondé, il n'y a pas de bousculade.
Jamais. Les seules bousculades, à la limite, c'est pour réussir à fermer les portes du métro à certaines heures, ouais. mais ça reste très rare. En général, il n'y a pas de bousculade, tout le monde fait attention à l'autre.
Ouais.
Tout le monde sait comment se positionner par rapport à l'autre. On laisse les gens sortir, on se met sur le côté, puis ensuite on rentre. Ouais. C'est très différent de la France.
Ouais, très différent. Mais est-ce que c'est pas un peu bloquant ? Est-ce que finalement tout le monde n'est pas un peu timide, un peu réservé ? C'est pas facile pour établir des relations comme ça.
C'est pas facile, mais ils sont pas si timides que ça. Il y a le comportement qu'on a dans la société en général, et puis il y a le comportement qu'on va avoir dans les restaurants, qu'on va avoir dans les bars, dans les cafés, où là on peut rencontrer des gens très facilement. Vous pouvez aussi discuter quand vous parlez japonais avec n'importe qui dans la rue et avoir une discussion d'une heure sans interruption. Les Japonais sont pas si timides que ça, mais ils ont certaines réserves par rapport à leur ouais. culture.
Ouais. Et alors, il y a une chose aussi à laquelle j'ai beaucoup de mal là-bas au Japon, c'est que quand vous avez un rendez-vous à 10h, la politesse, c'est d'arriver à 10h moins 10. C'est-à-dire que si vous arrivez à l'heure juste, vous êtes déjà impoli. Et ça, je veux dire qu'en tant que Français, on a du mal à s'y habituer, parce que nous, c'est plutôt jusqu'à 10h10, je suis bon, quoi. Et c'est très, très particulier. Mais il y a plein de choses comme ça. On continue.
Il y a beaucoup de petits codes. Oui.
Il y a beaucoup de petits codes. On continue à découvrir le Japon avec vous, Xavier, dans un petit instant sur Europe 1.
16h, 18h.
Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait tous les jours un grand voyage entre 16h et 18h, nous sommes aujourd'hui au Japon, dans cet extrême ailleurs si difficile parfois à appréhender. Nous sommes toujours en ligne également avec Xavier Andoujar, qui est photographe installé au Japon. Et moi, il y a un exemple de lieu où l'on ressent, je trouve, le mieux la difficulté d'appréhender le Japon. c'est un jardin. Un jardin que j'ai découvert un jour à Kyoto. Alors Kyoto, pour les visiteurs, c'est un peu le passage obligé au Japon. Kyoto, c'est la ville des temples paisibles. Il y a plus de 1000 temples, des jardins sublimement, finement entretenus, des petites maisons de bois. Il y a 17 sites classés au patrimoine mondial de l'humanité là-bas à Kyoto.
C'est énorme.
C'est énorme. C'est un peu le Japon d'autrefois, comme on l'imagine. C'est magnifique. Et beaucoup de Japonais m'ont dit « Ah, il faut absolument que tu ailles voir le jardin de pierre du temple Ryōjin ». Ryōjin, je ne sais pas si je le dis bien.
Vous prononcez bien.
Oui, ça, j'essaye. Alors, c'est un jardin qui a été fondé il y a plusieurs siècles. Et les Japonais font la queue pendant des heures pour aller voir ce jardin. Il est célébrissime, à tel point qu'on m'a conseillé d'y aller au petit matin avant l'arrivée de la foule. Donc, je me suis levé à 5h30 pour être devant à 7h. Et là, je suis accueilli par un guide très smart, en costume, très poli, qui me fait entrer. Qui me fait enlever mes chaussures, parce que pour visiter ce jardin, il faut enlever ses chaussures, c'est pas courant. Alors j'entre comme ça sur la pointe des pieds, et puis j'ose pas parler fort, parce qu'on entre dans un endroit très très calme, très paisible, comme ça. Et il m'amène dans une sorte d'espace qui ressemble à une sorte de cour entourée de murs. Au sol, vous avez juste du gravier finement ratissé, avec visiblement un ratissage très précis. Les stries, on sent qu'elles ont un sens très très ordonné. Et puis, dans ce calme total, sur ce gravier, réparti au milieu de la cour, des pierres. 15 pierres disposées, semble-t-il, à des endroits très précis. Des pierres qui sont comme des gros cailloux ou des petits rochers, pour vous donner un peu la dimension. Et sur le côté de la cour, vous avez des bancs pour s'asseoir et regarder. Et c'est tout. Donc voilà, le jardin de pierres, c'est ça. 15 pierres à regarder. Donc, moi, en bon français, je suis un peu circonspect. Donc, je demande tout timidement à mon guide, c'est ça, il y a que ça. Je suis un peu gêné, vous voyez. Et le guide, d'un air très sérieux, très respectueux, me dit, oui, vous avez là 15 pierres déposées devant vous. Bon, donc j'ose rien dire, tellement ça a l'air presque sacré à ses yeux, tellement abstrait pour moi. Et donc, je comprends rien, en fait. Et on est seul face à ces pierres que je regarde l'une après l'autre. Et puis, bon, au bout d'un moment, je dis les choses. Je suis désolé, monsieur, mais je ne ressens rien. Et il me répond, assez normal. Au début, la première chose à faire, c'est de s'asseoir, de se redresser, de respirer, de regarder, en laissant son esprit ouvert. Mais c'est une question de pratique. Il me regarde avec un air comme ça, un peu austère. Il faut pratiquer. Il faut venir plusieurs fois avant de ressentir quelque chose. Ou alors au moins rester 20 minutes. Donc bon, je reste 20 minutes, je me sens un peu plus calme au bout de 20 minutes. Mais bon, je pense que c'est surtout parce que je suis assis. Et je pose des questions, j'essaie de savoir. Et il n'y a pas de réponse, personne ne s'écrit qui a créé ce jardin. Pourquoi est-ce qu'il est zen? Les choses sont comme ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il aurait plus de 200 ans. Alors j'ai quand même questionné et questionné pour satisfaire mon esprit de cartésien. Le guide m'a quand même dit, un chercheur a émis l'hypothèse que la disposition des pierres influe sur la biochimie du cerveau et apaise. Et que si jamais l'on déplace une pierre de quelques centimètres, l'équilibre est rompu.
Wow. Des histoires d'énergie, en fait.
Ouais.
Donc c'est abstrait, c'est difficile à comprendre. Des fois, on croit comprendre tout à coup et puis on ne comprend plus rien.
Et ça, c'est le Japon.
Et ça, c'est le Japon.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe.
Nous sommes toujours en direct du Japon avec Xavier Andujar. Vous le connaissez, ce jardin mystérieux?
Ah bien sûr, tout le monde le connaît.
Mais vous avez ressenti quelque
chose?
C'est
un des joyaux du Japon. Alors non, la première fois que j'y suis allé, j'ai eu à peu près la même réaction de vous, mais en plus j'avais pas de guide avec moi, donc j'ai regardé le gravier et les rochers un peu avec un air circonspect, puis je suis rentré chez moi et j'ai pas compris. Et ça prend du temps en fait, et ça, il faut le décoder, il faut le déchiffrer, il faut connaître l'histoire.
Ouais.
Les temples, les jardins secs, c'est des endroits qui sont normalement dédiés à la méditation.
Ouais.
Donc c'est un endroit où les moines zen viennent, se posent et puis restent 20-30 minutes, méditent, regardent le néant sur ce jardin de gravier, puis laissent le jardin venir à eux. Et ça crée des sentiments en eux qui vont essayer de faire passer en eux d'une certaine manière. Mais c'est... c'est sûr que la visite touristique est un peu bizarre quand on arrive et qu'on voit le gravier et les rochers. Après, quand on connaît un petit peu plus l'histoire, c'est intéressant.
Mais en fait, vous savez, j'ai l'impression que c'est une forme d'humilité, en fait. L'état d'esprit, c'est l'humilité qui est recherchée, non ? Je me trompe ?
Mais alors, je pense que non, je pense que c'est surtout typiquement du bouddhisme zen. Ah, et le bouddhisme zen, c'est d'épurer au maximum les choses. Une des choses, par exemple, dans ce jardin, c'est qu'on a la partie donc avec le gravier et les rochers. Et cette partie-là est extrêmement sèche puisqu'on n'a que de la pierre. Elle vient contrebalancer avec l'autre partie du temple qui, elle, est recouverte de mousse, d'arbres et de verdure et d'eau. Et tout le jardin, en fait, c'est un ensemble. C'est cette partie sèche et la partie qui est de l'autre côté qui va jouer, qui va créer des émotions chez les gens.
Ah, le lâcher prise, c'est ça.
Vous avez mieux travaillé votre jardin que moi. Hein.
Ouais, c'est impressionnant quand même. Peut-être. Comme démarche.
Alors, c'est un voyage absolument infini, le Japon. C'est ça. Et je trouve que le plus grand voyage dans ce pays, c'est tout ça, c'est comprendre comment pensent les Japonais. C'est ça, vraiment ça qu'elle.
C'est déchiffrer, essayer de comprendre, et c'est pas facile. Je pense que je peux rester moi ici 50 ans et pas comprendre tout ce que je vois.
Ouais. Et avec votre femme, ça se passe comment alors ?
Ça se passe très très bien.
Vous avez réussi à
la
déchiffrer.
Très bien. Mais c'est parce que c'est une femme exceptionnelle, c'est pour ça. Ça se passe très bien. Il y a forcément des chocs culturels. Des fois, on se comprend pas, mais on sait que c'est dû à notre culture plus qu'à autre chose.
Très bien. Merci beaucoup, Xavier, de nous avoir parlé un peu de votre Japon. Vous en parlez très joliment.
Ben, c'était un plaisir.
À très très bientôt. J'espère. Dans un instant, on va continuer à parler du Japon et d'amour, l'amour à la japonaise. Et ça, donc évidemment, c'est Nathalie qui va s'y coller dans quelques instants sur Europe 1. Et un petit Camélia Jordana sur Europe 1, facile.
Je me laisse, je fais facile, je chante, quand de haut en bas s'attend, moi les yeux fermés j'avance, tout en inconscience quand j'y pense. Toi, tu crois que je brille, que je mens, ouvre tes yeux, prends, mais ne me regarde pas comme si c'était facile, tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. C'est ok, je suis fragile, presque sans défense. Ne crois pas que c'est futile, c'est ici que tout commence. Quand dedans ça papillonne, que ça s'agite, que ça cogne, je me défile et je m'étonne. Toi, tu crois que je brille, que je mens, ouvre tes yeux grands, mais ne me regarde pas comme si c'était facile, tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Toi, tu crois que je brille, que je mens, ouvre tes yeux grands. Oui, toi, tu crois. Comme si c'était facile, tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Si tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes, j'en appelle à ma sagesse, SOS. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile, tu sais bien que moi, je ne j'en appelle à ma sagesse, SOS.
retour de Camélia Jordana avec ce nouveau single Facile.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes au Japon, dans Et si on partait, et nous trépignons évidemment d'aborder la face plus sensuelle, plus amoureuse des Japonais grâce au savoir immense de Nathalie Halal.
Oui, c'est vrai que ça me préoccupe pas mal, l'amour à la japonaise. Et d'ailleurs, c'est le moment ou jamais de tordre le cou à certaines idées reçues du genre geisha égale prostituée. Parce que littéralement, la geisha, c'est la personne qui pratique les arts. Et les arts, ce sont la musique, la danse, le chant, l'art floral, la cérémonie du thé. Donc elles sont raffinées, elles sont cultivées. Tout ça, c'est l'aboutissement d'un enseignement long, rigoureux et difficile pour les jeunes filles. Ça n'a rien à voir avec le fantasme occidental de la prostituée. C'est plutôt la geisha, la dame de compagnie de prestige. Et d'ailleurs, elle ne parle jamais d'argent avec le client. Le client reçoit la facture à domicile qui est plutôt salée, d'ailleurs, quelques jours après.
Donc c'est une femme de compagnie.
Dame de compagnie prestigieuse.
Mais jusqu'où ? Jusqu'où elle va ?
Jusqu'à parfois la perte de la virginité dans les bras d'un mécène qu'on appelle son dana.
Voilà, alors c'est attendez, tout un art. Vous me dites, c'est pas très des prostituées.
Oui,
c'est pas des prostituées, mais elle abandonne sa virginité dans les bras d'un mécène.
Elle a un mécène, mais elle n'en a pas 10 des mécènes, elle en a un. Vous voyez la différence, c'est subtil, c'est japonais.
C'est une espèce de sugar daddy en fait, un petit peu.
Je vous vois bien, sugar daddy, Jean-Bernard.
Non, merci, non.
Alors, comment ça se passe les rapports hommes-femmes au Japon ?
Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le japonais ne pratique pas du tout le sexe festif. On n'est pas du tout dans la gauloiserie. Et d'ailleurs, la nudité, elle n'est pas considérée comme excitante. C'est une société corseté, mais l'interdit, il ne porte pas sur la nudité, mais sur l'expression des émotions. Alors, ce qui excite les Japonais, par exemple, et tenez-vous bien, ce sont les films où des femmes vont manger une variété de nouilles qu'on appelle des nouilles huileuses, en fait des ramen sans bouillon, des vidéos où elles éternuent, ou bien où on les voit se tordre le visage de manière grotesque. Alors, pourquoi tout ça ?
Mais pourquoi ? Oui, c'est incroyable.
Parce qu'une Japonaise convenable, elle ne mange pas dans la rue, elle n'éternue pas en public, elle arbore un visage bien comme il faut, en toutes circonstances. Et d'ailleurs, quand vous voyez un couple qui s'embrasse, ils produisent une onomatopée, tsupa tsupa, quelque chose comme slurp slurp slurp. C'est parce que s'embrasser dans la rue, c'est pas du tout concevable dans la culture nippone. Le kitanai, c'est-à-dire le sale, le laid, c'est presque indissociable de la jouissance parce que c'est la transgression à l'état pur. Et j'ai une petite anecdote encore. Sur les films, pas très comme il faut, les films X, vous voyez souvent un gros plan sur le visage des femmes qui disent plutôt « Arrêtez, j'ai trop honte !» au lieu de dire « Ah oui, oui, j'en veux encore !»
Parce que c'est l'interdit qui est excitant.
C'est ça qui est excitant, pour eux. C'est cette transgression de l'expression de l'émotion. Ça, c'est capital pour comprendre l'amour à la japonaise.
Ah bah dites donc alors Ah, je suis épaté.
Les meilleurs endroits de la pensée japonaise.
L'état d'esprit, hein.
Oui, oui, j'ai bossé là-dessus. Oui. Je me prépare.
Il y a des années d'études.
Je me cherche un dana.
On va faire un appel à la radio s'il y a un dana qui écoute.
Le bain.
Oui, j'ai une passion aussi pour le bain. Alors, je vous emmène tous avec moi dans la baignoire. Alors, dites-vous bien qu'au Japon, c'est pas du tout non plus la même chose qu'ici, parce que c'est un vrai rituel, c'est pas juste de l'hygiène, ça fait partie, le bain, des plaisirs de la vie. Les Japonais adorent l'eau, et d'ailleurs, le pays en déborde. Et le bain, ça se dit « ofuro », et le « o » devant « furo », c'est une marque de respect, donc c'est un sens honorifique.
Ouais, et ça se passe comment ?
Alors la baignoire, elle est plus haute qu'ici, elle est souvent en bois. Enfin aujourd'hui, c'est plus trop du bois, c'est plutôt de l'inox avec un système très sophistiqué qui permet de régler l'heure de remplissage, le niveau, la température de l'eau. Mais surtout, surtout, au Japon, on se lave avant de pénétrer dans la baignoire.
Comment
C'est-à-dire qu'on s'assied sur un petit tabouret, on se savonne, on va se rincer en prélevant de l'eau du bain à l'aide d'un récipient avec lequel on s'asperge ou alors on se rince avec une petite douchette. L'eau, elle est très très chaude, jusqu'à 45 degrés, et là, vous entrez seulement, une fois propre, une fois bien rincé, dans cette baignoire. Ah oui. Et puis, un autre détail surprenant. on ne vide pas l'eau du bain. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est-à-dire que cette eau du bain japonais, elle va être utilisée par tous les membres du foyer, les uns après les autres. Ah. Et d'ailleurs, certains...
Bah c'est possible, ils ne se sont pas lavés dedans.
Mais oui, mais enfin bon, quand même. Il faut le concevoir pour nous occidentaux. Et certains prélèvent même cette eau le lendemain pour la machine à laver. C'est un concept très COP21.
Oh, dis donc. Et c'est ça qui est super avec vous et avec le Japon, c'est qu'on voyage très très loin, y compris dans les sensations et les émotions. À suivre sur Europe 1, la cuisine du Japon. Et là aussi, c'est quelque chose.
Tout un programme.
À tout de suite.
Europe 1. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1 tout l'été, nous voyageons dans les endroits les plus étonnants de la planète et aussi les plus savoureux, quoique nous sommes au Japon. Et je dois dire, Emmanuel, vous allez peut-être me gronder, que franchement, je n'ai pas des très bons souvenirs gastronomiques au Japon. Je trouve que c'est souvent gras, souvent difficile. Je n'ai pas été renversé. Je trouve la nourriture japonaise au Japon moins bonne que la nourriture japonaise en France.
Et ben c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on en a une autre idée. Parce qu'en France, on mange certains produits, on va manger beaucoup de sushis, de sashimi, donc ça, ouais. C'est pas gras. Et donc, quand on arrive au Japon, on est surpris, dérouté. Il y a beaucoup de fritures, il y a beaucoup de lamen, vous savez, c'est ces soupes très grasses. Comme partout, il faut connaître les adresses, mais peut-être aussi connaître le sens caché des choses.
Encore ?
Mais oui, toujours.
C'est fatigant, ce pays.
C'est tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire que pour apprécier les plats à leur juste valeur, vous savez, les historiens de l'alimentation disent que l'homme ne se nourrit pas que de nutriments, mais de symboles. Ouais. Et bien, c'est particulièrement vrai au Japon. Mais pour le comprendre, il faut comprendre peut-être un peu la langue. Alors moi, quand je suis partie, j'y étais allée pour écrire un livre sur la cuisine japonaise. Mmh. Et donc, j'ai travaillé avec une interprète. Et donc, j'ai pu échanger avec les Japonais. Et c'est là où j'ai basculé dans un autre monde en ayant accès à la pensée japonaise. Donc, même pour la cuisine, il faut avoir accès à ce qui se passe là-haut dans le cerveau.
Et donc, concrètement, ça donne quoi ?
Alors, par exemple, pour vous mettre tout de suite dans le bain, je vais vous citer Ryoko Sekiguchi, qui est une auteure japonaise, mais qui écrit en français, ouais. Qui vit à Paris, et dans un livre Nagori, elle écrit qu'il y a plusieurs saisonnalités, par exemple, au Japon. Alors, il y a les primeurs, pour des fruits et légumes, les fruits primeurs, les fruits de pleine saison, donc ça on connaît, on a ça chez nous, et puis il y a le fruit Nagori. Donc ça, c'est l'arrière-saison. Elle écrit, je la cite, « Un fruit Nagori est en fin de saison, il est surmaturé, il nous dit au revoir jusqu'à ce qu'on se retrouve l'année suivante et on en a la nostalgie. »
C'est-à-dire qu'on mange un fruit pourri et
On mange un fruit un petit peu tard, alors surmaturé, on ne dit pas pourri, tout est question de terme, mais en tout cas parce que voilà, on est triste, il va nous quitter, mais le fruit lui-même est triste, il est nagori lui-même, d'attendre jusqu'à l'année prochaine, par exemple pour des cerises, jusqu'à revenir sur l'arbre.
Donc vous voyez, on le savoure en partageant sa tristesse.
Exactement. Ah, et parce qu'en fait, on a un rapport aux aliments qui est bien particulier.
J'ai une vieille banane dans mon sac, je vais essayer.
Voilà, elle est nagori. Est-ce qu'on est en fin de saison ? Mais c'est pas qu'elle est pourrie, c'est est-ce qu'on est en fin de saison de la banane ? Attention, c'est un rapport au temps.
Et elle nous dit au revoir, c'est ça.
Et voilà, elle nous dit au revoir.
Et donc, elle a plus lâché Philippe, la banane.
Vous savez, il y avait un film très, très beau qui était tiré d'un roman d'ailleurs, Les Délices de Tokyo, où la cuisinière, elle parlait à ses haricots. Elle les félicitait, elle les remerciait d'être venues jusqu'à elle. Donc voilà, c'est ça le Japon. C'est-à-dire que c'est un rapport aux aliments. C'est-à-dire qu'en France, on dit qu'il faut respecter le produit, mais au Japon, respecter le produit, c'est le considérer peut-être comme on le ferait avec une personne.
Ah bon. Mais alors, dans la vraie vie, quand on a faim et qu'on veut manger, ça donne quoi ?
Et ben, par exemple, les sushis. J'en parlais tout à l'heure, ça on connaît bien, on se les fait livrer au bureau ou à la maison en scooter le soir. Bon, très bien. Et ben, au Japon, ça c'est impossible. Parce que le sushi, il doit être préparé, le riz du sushi doit être servi à une température exacte qui est proche de celle du corps. Et maître de sushi m'avait raconté, tenez-vous bien, qu'il avait cuit pendant 10 ans tous les jours du riz pour arriver à la cuisson et à la température parfaite avant de se lancer dans l'ouverture de son restaurant.
10 ans. Pour cuire du riz.
Pour cuire du riz tous les jours. Parce qu'on pense toujours que le sushi, c'est le poisson. C'est vrai qu'il faut connaître la maturité du poisson, savoir les découper, mais le riz, c'est encore plus important. Et un autre maître de sushi m'a dit qu'il goûtait l'eau de mer pour savoir le goût qu'elle avait pour mieux comprendre le milieu dans lequel vivaient les poissons avant de les cuisiner.
Donc voilà. On pousse le raffinement.
On ne mange plus les sushis de la même manière.
D'ailleurs, à propos du sushi qui doit prendre la température température du corps. Moi, ça me fait penser à la Nyo Taimori. Vous savez, c'est la présentation des sashimi et des sushis sur le corps d'une femme nue qui est un vrai rituel.
Ah,
aussi.
Ah bon ?
Oui, et parce qu'on dit
ça
que...
Se fait ?
Bien sûr, bah, ça se fait maintenant, c'est complètement galvaudé en Occident parce qu'on a copié ce concept en pensant que c'était érotique. Mais en fait, c'est tout un truc très sérieux. Et effectivement, le fait d'être présenté sur un corps humain, bah, ça donne au sushi, au sashimi, une température voisine du corps.
Ah oui, il y a ça. Et puis en plus, les sashimi, des bons sashimi, doivent être très transparents. Donc j'imagine qu'en plus, on voit le grain de la peau. Donc, c'est tout un art.
C'est facile à ce niveau-là.
Oui, ce pays est fou.
Bon, alors, quand est-ce qu'on mange ?
Oui, c'est ça. Voilà, il faut se détendre un petit peu aussi. Alors bon, il y a évidemment des spécialités comme ça qu'on mange sans trop réfléchir. J'ai parlé des tempura, les takoyaki qui sont des boulettes de poulpe, spécialité d'Osaka, ou les yakitori. Là, on en mange beaucoup en France,
oui,
ces petites brochettes.
Ça,
voilà,
ouais.
C'est connu. Mais pour chaque spécialité au Japon, il y a la partie populaire, enfin, il y a la recette populaire ou la version un peu luxe. Et les yakitori, quand on les mange version luxe, on va dans un restaurant qui... cuisine tout le poulet et on va servir chaque partie séparément, le blanc, l'aile, la peau, le cou et même des brochettes de cartilage. Mmh. Et donc ça redevient une expérience esthétique de dégustation à travers évidemment les goûts.
Des brochettes de cartilage.
Des brochettes de cartilage de poulet, c'est délicieux. Mais voilà,
c'est délicieux.
C'est délicieux, moi j'adore le cartilage. Mais en fait, c'est pour expérimenter différentes textures.
Ah, oui.
Donc voilà. Donc on se détend un peu, mais pas complètement quand même, hein, à un moment donné.
Ouais.
Non, pas trop longtemps.
Et les rues de Shinjuku.
Alors, à Shinjuku, derrière la grande gare, là, il y a un petit ensemble de ruelles avec des restaurants de rue. Ça s'appelle Omoide Yokosho.
Ouais.
C'est littéralement l'allée des souvenirs. Alors, on comprend pourquoi quand on y est, parce qu'il y a les grands buildings d'un côté, et puis derrière, ce petit quartier traditionnel qui est resté authentique. Et donc là, on peut manger plein de choses comme l'anguille unagi. Et voilà, c'est une anguille. On la mange d'ailleurs en ce moment, pendant les fortes chaleurs de l'été.
Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. Quel voyage !
Bon appétit !
Bon, on va repasser aux choses concrètes, avec Jean-Bernard Carrier, dans
on
un tout petit instant.
Aussi.
À tout de suite sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1 ? 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Ah bah oui ! Et si on partait au Japon, aujourd'hui sur Europe 1, et ce titre, évidemment, inévitable, Big in Japan, par le groupe Alphaville, un titre culte qui était sorti en 1984. Un groupe qui avait fait d'autres monstres, Sounds Like a Melody ou Forever Young. On écoute ensemble tout de suite, sur Europe 1.
Come on.
Magnifique, toute une époque. Alphaville, Big in Japan en 1984.
16h-18h.
Et si on partait ?
Philippe Googler.
Nous sommes très très loin. Nous sommes au Japon dans Et si on partait sur Europe 1. Tous les jours, un grand voyage entre 16h et 18h. Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Les infos pratiques pour le Japon. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour y aller ?
Facile pour y aller. À l'époque, avant la crise, il y avait des vols tous les jours entre Paris et Tokyo ou Osaka. 12 heures de vol quand même. Ouais. Mais des petits tarifs, on pouvait trouver des allers-retours à partir de 500 euros.
Allers-retours.
Ouais, oui, il y a des bonnes affaires pour le Japon. Une fois qu'on est sur place, c'est très facile de se déplacer, à condition qu'on sache un petit peu déchiffrer les caractères japonais.
Bah, on ne sait pas déchiffrer les caractères
japonais. C'est un bon guide de voyage, comme le Lonely Planet en main, on est quand même largement aidé. Et on peut se déplacer à la fois en train, on peut prendre une voiture de location.
Les trains japonais, je fais une petite parenthèse quand même, parce que c'est ma spécialité. Vous savez quel est le retard moyen sur un an d'un Shinkansen, c'est-à-dire un TGV japonais? Le retard moyen.
Moins d'une minute.
6 secondes.
Ah ouais.
C'est-à-dire que quand le train a 12 secondes de retard, le conducteur il est convoqué au bureau. Hein.
Ouais, il s'excuse auprès des passagers.
Alors, parmi les expériences incontournables, il y a le train, vous l'avez dit, mais moi j'aime beaucoup le onsen. Le onsen, c'est les sources thermales et ça fait vraiment partie du rituel japonais. C'est un vrai antidote au stress. Il faut dire qu'au Japon, on compte plus de 27 000 sources thermales qui jaillissent dans ce pays. C'est énorme. Alors, pour les visiteurs, l'avantage, c'est qu'on est les bienvenus dans ces sources thermales. Ça fait partie de l'expérience de bain. Voilà.
Donc, c'est en famille, c'est en couple, c'est comment ?
Alors, c'est très codé, comme partout au Japon, tout est codé. Et l'expérience du bain, bah, il faut connaître un petit peu les bonnes manières. Il y a vraiment un code de conduite quand on va dans un onsen. Alors, il faut savoir, Nathalie l'a dit tout à l'heure, les sources thermales ne servent pas à se laver. En fait, on rentre dans ces eaux chaudes, claires et sulfureuses. Il faut être propre comme un sous-neuf. Donc la douche, effectivement, est obligatoire avant. Sinon, on va vous regarder avec des yeux de travers. Donc très attention. Alors, les fameux onsen, ces bains, ils ne sont pas mixte, c'est séparé, sauf que effectivement c'est le même bâtiment, donc faut faire très attention quand on va dedans. Il y a un petit caractère qui dit que là c'est les hommes et un caractère japonais qui dit que là c'est les femmes.
Faut pas
se tromper de rideau, c'est un rideau qui sépare les deux. Sinon là encore vous allez passer un sale quart d'heure. Donc pas d'impair, faut bien respecter, observer pour voir qui va où et faire pareil. Dans les vestiaires, on va vous donner un bout de serviette qui ressemble à un torchon. Alors ça c'est vraiment bizarre. On n'emmène rien dans l'espace bain, sauf cette petite serviette. On ne prend surtout pas un maillot de bain, parce qu'on considère que ça va souiller la source thermale.
Ah oui.
Surtout pas ça. On prend juste ce petit torchon, cette mini serviette, et on se met nu devant tout le monde, entièrement nu, même pas les bijoux qu'on laisse au vestiaire. Petite précision aussi pour les onsen, si vous avez un tatouage, bah c'est pas très bien vu.
Ouais,
Vous savez pourquoi, Emmanuel ?
Les yakuza.
Ben voilà, ça fait mafieux japonais. C'est pas très bien vu. Voilà. Alors le torchon, il sert à quoi ? Ben, il sert à s'éponger quand on passe d'un bain à un autre et à cacher un petit peu les parties intimes si vraiment on est pudique. Mais en fait, ça cache pas grand-chose. C'est un petit torchon qui fait 40 cm sur 20 cm. C'est plus, plus pour la forme. Et quand on est dans l'eau, on le met sur la tête. On le met en carré et on le met sur la tête. Voilà, et on se baigne.
Il ne faut jamais tremper sa tête dans le bassin.
Il ne faut surtout pas tremper sa tête. Voilà, les têtes toujours émergées. Alors, les bains sont à différentes températures.
Mais alors, j'ai pas compris. C'est hommes et femmes mélangés, les bains, ou c'est vraiment séparé ?
Les bains sont séparés. Et les bains sont à différentes températures. Et on passe de l'un à l'autre en fonction de son envie. Il faut savoir quand même, vous avez dit, Nathalie, il y en a qui sont à 45 degrés. Oui. Attention quand même, pour les Occidentaux, on n'est pas habitué. On peut se faire un petit malaise vagal, donc il faut faire attention. Et ce qui est quand même incroyable, c'est la convivialité qui règne dans ces bains. Parce que vous êtes avec les Japonais, ou Japonaises si vous êtes femme, avec les Japonais si vous êtes homme. Et tout le monde, il y a des collègues. Alors vous imaginez être nu avec ses collègues dans un bain. Bah, c'est comme ça au Japon. Ça fait partie des codes. Et c'est très relaxant. Ça fait vraiment partie du rituel, comme je l'ai dit.
Ouais. Il y a une expérience qui est forte aussi au Japon. C'est tout simplement de prendre les transports en commun. Et surtout à Tokyo.
Oh bah ça, c'est un truc de fou. Ouais. Un truc de dingue. Je l'ai expérimenté moi-même. Parce que sur les 25 gares les plus fréquentées au monde, 24 sont japonaises. Et moi, je suis allé dans la gare de Shinjuku à Tokyo, qui est la numéro 1 mondiale, c'est la plus grande gare au monde. Elle voit passer près de 4 millions de passagers par jour. Ouais. C'est un monstre, elle est tentaculaire. Forum des Halles à côté, c'est une petite gare de ouais. province.
Et c'est un immense centre commercial. Alors,
c'est aussi un immense centre commercial. Circuler dans cette gare, c'est une expérience à part entière. C'est une fourmilière, mais en fait, c'est super bien organisé. Personne ne se marche dessus. Mais moi, je me suis retrouvé là, au milieu. J'avais l'impression d'être perdu au milieu dans un océan. Parce qu'en fait, il y a plus de 200 sorties. C'est un labyrinthe. Tout est imbriqué. On ne sait jamais si on monte, si on descend, si on est à la surface, quel passage prendre. Il y a des passages qui débouchent dans des tours, donc on pense qu'on va sortir dans ouais. la rue, mais en fait, on arrive dans un autre centre commercial.
Et tout ça, quand vous avez des gros bagages avec vous, c'est pas drôle. C'est, parce que
vous pouvez y passer la demi-journée.
Mais oui, et ça m'est arrivé.
La demi-journée. Ouais. En fait, à la fin, ça devient oppressant parce qu'on a l'impression qu'on va jamais en sortir.
C'est kafkaïen, votre
c'est
histoire.
C'est kafkaïen. Alors, en fait, ce qu'on m'a dit, dans le petit hôtel où j'étais, on m'a dit qu'en fait, il faut planifier son trajet à l'avance à Shinjuku.
Le trajet dans la gare.
Il faut planifier son trajet dans la gare, préparer son itinéraire et repérer la sortie. Dont on aura besoin. Donc si vous êtes un petit peu agoraphobe, il ne faut pas aller à Shinjuku.
Merci Jean-Bernard pour tous ces bons conseils. Merci à tous d'avoir voyagé si loin avec nous. Lundi, on continue le périple autour de la planète. Nous partirons en Birmanie. En birman, ça se dit le pays merveilleux. Les pagodes aux feuilles d'or, le fleuve mythique Irrawaddy, le train le plus lent du monde aussi, je l'ai pris. On va plus vite à pied qu'en train. Et puis en premier... C'est vrai, c'est véridique. Et puis en premier... Première heure, une région dont le nom est comme une fête, la Champagne. Tout cela lundi à partir de 16h sur Europe 1. Merci à tous. Dans un instant, le grand journal du soir. Bonsoir Thierry Dagiral.
Bonsoir Philippe. On était bien, dites donc, au Japon. Là, on était zen dans vos bains japonais.
On est zen. On est zen et on a appris à comprendre les Japonais. C'est un exercice long et difficile et transpirant.
On se donne rendez-vous lundi dès 16h pour repartir en voyage avec votre belle équipe.
Absolument.